Et à toutes et bienvenue dans ce nouveau numéro de e-Teachers et on est bien content de vous retrouver sur cette deuxième semaine des vacances scolaires, mais on est toujours fidèle au poste et j'espère que vous allez bien. Salut Jeff.
Bonsoir, salut Guillaume, bonsoir. T'as l'air un peu fatigué, Guillaume, j'ai l'impression ce soir, non?
Ouais, je m'excuse, c'est la
Bon.
raison pour laquelle j'étais aussi absent il y a 15 jours là, puisque
Alors, tu as été papa, je crois, donc je te
je suis
souhaite
papa, ouais.
félicitations en tout cas à toi.
Merci beaucoup, raison pour laquelle je fais le podcast en direct de ma chambre, puisque mes chers enfants, puisqu'ils sont deux, ce sont des jumeaux, sont un peu trop près de mon bureau et essayent de s'endormir. Donc, si je reviens avec un bébé dans les bras, ben, ça sera peut-être qu'on fait trop de bruit, mais alors ça va aller. En tout cas, je suis bien content de revenir, puisque j'étais absent lors du dernier numéro, mais je crois que tout s'est bien passé, hein, mon cher Jeff,
Oui,
avec Seb.
tout s'est bien passé. On a même eu une petite semaine de décalage, puisque la semaine dernière, moi, c'était moi qui étais un peu pris. Donc, on a décalé d'une semaine. Bon, tant pis.
Aucune importance.
Aucune importance. En tout cas, ce soir, on a deux invités. Donc, si vous voulez, avant de commencer, on va parler jeux vidéo ce soir, pardon. Et si vous voulez réagir en direct, c'est toujours sur itteachers.fr/live. Vous avez un petit chat en dessous du live où vous pouvez poser une question à tout moment. Voilà.
Eh ben ma foi, on va attaquer. Donc oui, comme tu disais, ce soir, on a deux collègues qui, bon, bah, tour à tour vont se présenter et on va dire orientent une partie de leur enseignement, tout du moins, peut-être tout leur enseignement, bon, ils vont nous expliquer ça, autour du jeu vidéo et de l'utilisation du jeu vidéo, du Serious Games. Voilà, c'est tous ces mots-clés qu'on va aborder un petit peu au cours de ce podcast. Et puis ben, je vous propose que vous commenciez par vous présenter tout de suite. On attaque avec Stéphane.
Oui, bonsoir. Donc, effectivement, je m'appelle Stéphane Cloache. Je suis prof de techno en Ille-et-Vilaine, là, en Bretagne. Et j'enseigne essentiellement au niveau d'un niveau qui est le niveau 5e. Et à côté de ça, je suis. Donc, ça, c'est un mi-temps, en fait. Et puis, l'autre mi-temps, je suis formateur TIS pour le département, en fait. Et donc, depuis maintenant un peu plus d'un an, j'expérimente le jeu vidéo en classe. Donc, un jeu en particulier, en fait, hein, parce qu'il y a un jeu qui a fait tilt et qui correspond assez bien au programme de techno en 5e. Et j'utilise Minecraft. Et j'utilise une version éducative, en fait, qui a été développée à l'étranger. On aura l'occasion d'en parler. Et donc, je me sers de mes élèves de souris comme des souris de laboratoire. Et j'ai déjà un petit peu de recul en fait sur l'utilisation de ce jeu et ça commence un petit peu à se développer. Là, j'ai des contacts assez intéressants aussi avec la communauté Minecraft en ce moment.
Bon, bah, tu vas nous raconter tout ça. Avant qu'on revienne un peu plus en détail, on va quand même laisser Jean se présenter, qui interviendra donc un petit peu plus après ta présentation.
Alors, bah, moi, alors, je suis Jean, je suis professeur d'art plastique en collège, et eh bien, j'ai découvert cet été tout à fait par hasard un dispositif qui s'appelle Classcraft et qui transforme mon cours en une sorte de jeu de rôle. Et c'est formidable à quel point ça peut transformer les choses, ça peut devenir formidable, et le cours d'art plastique devient une aventure des plus agréables et pour mes élèves et pour moi.
Bon, eh ben écoute, c'est super, tu vas nous en reparler. On va revenir un petit peu sur Stéphane, même si de toute façon ce sujet enfin vos deux thématiques sont quand même poreuses, hein, et s'entremêlent, donc n'hésitez pas à intervenir, et puis n'hésitez pas aussi, chers auditeurs, à intervenir sur le chat en direct comme Jeff l'a proposé. Ben écoute, Jean, ce que je propose, c'est que Stéphane, pardon, c'est que tu commences par nous parler un petit peu de ton approche avec Minecraft. Donc Minecraft, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un jeu vidéo qui est assez populaire chez les adolescents, hein, c'est bien ça?
Oui, tout à fait, ouais. Très très populaire. Bon, j'ai fait des sondages auprès de mes élèves, ils sont à peu près 60% à y jouer en cinquième. Donc c'est pas non plus la majorité, enfin c'est une majorité, mais c'est pas tous les élèves. Donc c'est un jeu qui en fait se présente sous forme de cube. C'est-à-dire qu'on a un monde qui est un monde sans fin en fait, dans lequel tous les éléments naturels en fait sont représentés sous forme de cubes. Donc on se promène dans des paysages et alors il s'appelle Minecraft. Donc il y a deux termes en fait anglais dans le titre du jeu. Mine parce qu'en fait on peut récolter les matières premières que l'on rencontre. Ça peut être à la fois les arbres ou bien le sous-sol. et puis craft, et là il n'y a pas de traduction française satisfaisante, qui consiste en fait à transformer ces matières premières pour fabriquer des matériaux, des outils. Et avec ça, en fait, on peut complètement faire jouer sa créativité pour construire des bâtiments, des lieux immenses, ou alors être plus dans un mode de jeu qui est le mode survie, parce qu'on a des monstres qui apparaissent la nuit, etc. Donc c'est un jeu en fait qui est un jeu bac à sable dans ce qu'on appelle dans le monde du jeu vidéo. Et c'est un jeu un peu aussi particulier parce qu'il y a une énorme communauté en fait autour de ce jeu, parce qu'il est très ouvert. Donc à peu près n'importe qui peut rajouter des couches supplémentaires au jeu, ce qu'on appelle des mods, qui permet de le colorer, de lui donner en fait différents thèmes. Et d'ailleurs, le week-end dernier, là, j'étais sur Tarbes, il y avait la convention nationale Minecraft, et c'est très très fou en fait ce qu'on peut faire avec ce jeu. J'ai rencontré notamment une équipe qui travaille, donc qui utilise le jeu et qui a bossé pour le Centre Pompidou. Et qui a recréé la Villa Savoie, je sais pas si on a entendu un petit peu parler, c'est une villa célèbre construite par Le Corbusier. Et pour le Centre Pompidou, en fait, ils ont construit à l'aide de Minecraft cette villa, et ça a été exposé, en fait, et ça a permis de créer une visite virtuelle de cette villa. Donc ça, c'est un exemple. Et puis on va avoir des joueurs qui vont aussi utiliser ce jeu pour faire de la compétition, et d'autres encore pour réaliser carrément des films, ce qu'on appelle des machinimas. C'est-à-dire qu'on va utiliser le jeu comme un moteur qui va permettre de réaliser un court-métrage ou un long-métrage. Il y a une série policière en ce moment qui est en ligne, on a aussi de la science-fiction. C'est assez fou en fait tout ce qu'on peut en faire avec ce jeu. Donc c'est très très vaste.
Alors, toi t'étais un joueur au départ de Minecraft ou pas du tout ?
Alors moi, en fait, je suis comme vous, je suis papa, et donc je l'ai découvert à la fois avec mes enfants et avec mes élèves. Et c'est quand j'ai vu mes enfants en fait jouer au jeu que j'ai commencé à faire des connexions avec ce que moi j'avais à faire en techno, puisque en cinquième en particulier, le programme c'est autour des bâtiments et des ouvrages d'art. Donc comme c'est un jeu où on récolte des matières premières, on les transforme et on peut construire des bâtiments, enfin voilà, de manière très très libre. Ça m'a fait tilt, et donc j'ai joué un peu avec mes enfants bien sûr, mais j'ai fait quelques recherches en fait sur internet, et c'est là que je me suis rendu compte que ce jeu en fait il avait un grand succès, y compris dans le monde scolaire, mais à l'étranger, puisque on a notamment des établissements aux États-Unis, dans les pays nordiques. L'Irlande du Nord récemment vient de décider en fait de former tous les enseignants d'école primaire à Minecraft. Donc c'est un jeu qui a un développement assez fort dans le monde scolaire à l'étranger. Et ce qui fait qu'il y a c'est en 2011, donc ça fait quand même il y a 4 ans, il y a une boîte qui s'appelle Teacher Gaming, qui a été créée par un enseignant américain, et puis des enseignants et des développeurs finlandais. Ils ont créé en fait une version éducative de Minecraft, c'est-à-dire que les surcouches qui existaient de manière un peu anarchique entre guillemets sur Internet ont été un peu rationalisées pour offrir un outil qui soit facile à prendre en main par des profs. Et donc la particularité de cet outil-là, Minecraft Edu, c'est qu'un prof peut créer un petit serveur simplement à partir de son ordinateur, sans avoir vraiment quelque chose de très puissant, pour que les élèves puissent jouer au jeu et être ensemble en fait dans la même partie en fait en classe. Donc j'ai commencé à utiliser Minecraft Edu et donc à la différence de ce qui, enfin j'ai déjà rencontré des profs qui côtoyaient des profs qui l'utilisaient même un peu en France, mais c'était souvent dans le cadre de clubs de jeux vidéo qui commencent à se mettre en place dans les collèges. Et moi mon entrée c'était vraiment d'essayer de l'adapter et de le détourner pour mes cours de techno. Donc comme un outil vraiment au service de mon programme de techno. Et donc c'est ce que je fais depuis l'année dernière.
Et donc allons-y, rentrons un peu dans le vif du sujet. Comment tu adaptes un jeu vidéo à ton enseignement? Concrètement, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que font les élèves? Qu'est-ce qui se passe?
Alors concrètement, je peux vous montrer des images si vous voulez. Pendant que je vais vous montrer concrètement à quoi ça peut ressembler. Donc j'ai développé dans les outils qui sont proposés aux enseignants, on peut aussi créer une carte avec des outils particuliers. Donc c'est-à-dire que dans le jeu normal, on a à sa disposition des outils ou des blocs de matériaux, mais avec la version éducative du jeu, on a la possibilité en fait de limiter un peu les élèves, de créer des zones dans lesquelles ils ont le droit de construire ou au contraire où ils n'ont pas le droit, où ils ont l'autorisation de construire. Et donc on peut se créer un univers à l'intérieur duquel les élèves vont se promener. Donc en fait on crée un espace dans lequel les élèves vont vivre une expérience. Donc par exemple là à l'écran, on est dans une salle de classe que j'ai créée en fait à l'aide du jeu. Et le thème que j'ai choisi, moi, en fait, c'était l'entrée vraiment qui m'a le plus intéressé au départ, c'était travailler sur ce qu'on appelle en techno la disponibilité des matières premières et des matériaux. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on ne va pas trouver le même type d'architecture d'une région à l'autre en fonction, ben, justement, des matières premières qui sont disponibles dans le sous-sol. Et donc, j'ai créé une carte qui est une partie dans laquelle les élèves se retrouvent dans un monde où certaines matières premières sont disponibles et d'autres non, et ils doivent réussir à s'en sortir. Donc là, on est dans une sorte de salle de classe virtuelle que j'ai créée. Alors, on est dans le monde de Minecraft. Et puis, on voit ici que cette maison, elle est dans les airs. Et les élèves, en fait, sont affectés. Le principe de cette partie, c'est que ça s'appelle la planète inconnue. C'est-à-dire que les élèves sont affectés, arrivent sur une planète qui a été divisée en petites parcelles. On voit ici qu'il y en a des murs de verre, en fait, qui entourent ces différentes parcelles. Et doivent récolter des échantillons, comme s'ils arrivaient sur une nouvelle planète. Et à partir de ces échantillons, constituer un panel de matériaux et de matières premières qui sont disponibles et construire un musée, une sorte de musée scientifique qui va permettre de présenter, en fait, ces matériaux et ces matières premières. Donc voilà comment ça se passe pour eux. Ils arrivent sur cette petite plateforme donc, que j'ai construite hein, grâce à des outils qui permettent de construire vraiment très rapidement hein, dans Minecraft. Je vous montrerai peut-être ça si on a le temps. Mais... Et puis, notamment, grâce à la version éducative, je peux avoir cette plateforme qui est cette borne qui est une borne de téléportation. Et je peux directement me téléporter en fait dans un nouvel espace. Ici, c'est une gare en fait que j'ai créée aussi. Alors, c'est vraiment avec des outils qui permettent d'aller vite. C'est-à-dire dans la version éducative, le prof il peut construire des murs d'une centaine de mètres vraiment en deux clics, ce que les élèves ne peuvent pas faire normalement. Et donc l'élève monte dans un petit wagon. Il descend grâce à son petit wagon dans le biome qui lui a été donné. Donc il arrive dans une zone, qui est une zone de recherche, un peu comme un archéologue, en fait, qui a une zone qui est délimitée pour travailler. Et dans la partie, en fait, il arrive ici, et toujours avec la version éducative, on a des blocs particuliers qui sont des blocs d'information qu'on voit ici. Et quand on fait un clic droit, en fait, on peut avoir des instructions, en fait, qui sont données dans le jeu. Donc, notamment ici, la construction du musée des sciences. La deuxième particularité de la version éducative, c'est qu'en fait, je ne suis pas en tant qu'élève, donc on ne peut pas le voir, mais un élève, en fait, a la possibilité, en fait, d'avoir des missions et des objectifs qui lui sont donnés à l'intérieur du jeu. Donc, voilà, en quelques mots, en fait, à quoi ça peut ressembler. Et donc, l'élève va pouvoir récolter des matières premières, des matériaux, les transformer, et puis commencer à se rendre compte, et c'est ça l'intérêt du jeu, c'est que ici, on le voit pas, je suis sur une terre en fait qui est on va dire un peu nordique avec de la neige, mais un élève peut très bien tomber dans une partie qui va ressembler un peu plus à un climat tempéré, voire carrément à un désert. Et ce qui est intéressant, c'est que en fait les élèves vont tous avoir le même objectif mais dans des mondes différents. Et donc, on va se retrouver avec des élèves qui vont fabriquer des musées. Là, par exemple, ici, on va dire c'est assez pauvre. Ils se retrouvent dans une zone qui est entièrement recouverte de sable. Eh bien, dans Minecraft, le sable, on s'en sert notamment pour fabriquer du verre. Hein, un peu comme dans la vie réelle, c'est-à-dire qu'on peut le faire fondre et fabriquer du verre. Et donc, j'ai des élèves qui vont fabriquer des musées en verre parce que voilà, ça correspondait à ce qu'ils avaient trouvé. Donc, l'intérêt du jeu, il était là. C'est-à-dire l'entrée matière première matériaux et puis se retrouver dans des mondes différents et puis faire appel à la créativité des élèves pour voir ce qui est en fait, et après on peut discuter et travailler en fait sur ce qui a été créé par les élèves.
D'accord.
Donc je vais sortir du partage. Là, ça vous donne une petite idée. Et on pourra y revenir si vous voulez.
Moi, ma question c'était en fait, du coup, finalement, les élèves jouent au jeu, mais à aucun moment ils ne deviennent. Je pensais peut-être qu'ils pouvaient eux-mêmes créer des mondes, qu'ils étaient constructeurs. Je voyais plus la logique en fait comme ça, qu'ils créaient quelque part le jeu vidéo. Là, ils sont juste à l'intérieur et ils jouent en fait.
Alors, il y a plein d'entrées. Ça, c'est l'entrée que j'ai choisie. Souvent la première entrée qu'on a quand on utilise Minecraft, c'est la construction de bâtiments en fait, parce que c'est ce qu'il y a de plus simple. Et puis ça colle avec pas mal de programmes. Ça peut être en histoire géo sur des bâtiments historiques. En techno, on l'a vu. J'ai ma collègue de latin qui a commencé à reproduire le forum romain, en fait, donc reproduire des bâtiments antiques. Donc d'accord. C'est souvent la première entrée. Mais ensuite, on n'est pas du tout obligé de se limiter à ça. C'est-à-dire qu'on peut créer des énigmes à l'intérieur du jeu. On peut aussi ajouter des personnages virtuels qu'on appelle des NPC ou en français, c'est des personnages non
jouables.
Hein?
Non jouable, les personnages.
Ouais, non jouable, c'est ça, voilà. Les PNJ, voilà, les PNJ. Donc on peut rajouter des personnages automatisés qui vont avoir une interaction en fait avec ceux qui viennent dans la partie, et donc par exemple avoir un système de quêtes, de questions-réponses, et qui vont permettre d'obtenir des récompenses. Donc ça, c'est une couche qu'on peut rajouter. Donc par exemple là, j'ai travaillé aussi l'année dernière sur la reconstruction du collège dans lequel on est, et puis du quartier en fait de Fougères, de la ville où je suis, donc et notamment église, bâtiments un peu historiques autour du collège. On pourrait très bien imaginer que les élèves en fait rajoutent cette couche un peu ludique en créant du jeu vidéo à partir de Minecraft aussi. C'est possible.
D'accord, on fait vraiment créer son scénario, vraiment inventer son scénario quoi.
Là-dessus. Ouais, complètement. Ouais.
Et tu peux, par exemple, on parlait des matériaux, est-ce que tu peux, par exemple, leur donner une caractéristique particulière, les matériaux, je sais pas.
Donc ça, c'est la limite de Minecraft, c'est-à-dire qu'en fait, sur le plan des caractéristiques physiques, tu vas pas, enfin, ça va pas aller très très loin.
D'accord.
Notamment en termes de gravité, il y a que quelques matériaux qui subissent la gravité, le sable et les graviers, et qui vont tomber. Tu les mets en l'air et puis ils vont tomber au sol automatiquement. Les autres, en fait, à la limite, tu les construis. Voilà, il n'y a pas de notion de gravité en fait dans le jeu. Donc c'est une entrée, mais c'est pas suffisant en fait pour aborder les matériaux. Donc c'est une entrée sur certains aspects.
D'accord. En tout cas, c'est assez riche. Comme... Et oui, donc justement, construire ces maps-là, ça prend du temps.
Alors, ça dépend. Là, moi, je me suis un peu éclaté, en fait, hein, parce que c'était le moment où moi, je commençais à découvrir le jeu. Donc, j'ai passé pas mal de temps sur cette map. Et puis, sachant que je me suis rendu compte qu'il y avait des failles en l'utilisant avec les élèves, parce que... Il y a notamment des blocs, on a vu que c'était entouré de verre. Les élèves ne peuvent pas détruire ces blocs parce que j'ai mis des blocs qui empêchent de détruire à ces endroits-là. Il y a des blocs frontières aussi qui empêchent les élèves de sortir. Mais c'est comme quand tu mets des fourmis dans un lieu confiné, elles vont toujours essayer de sortir et mes élèves, c'est la même chose.
Ouais.
Donc, je me suis rendu compte qu'il y avait des petites failles et puis j'ai amélioré la carte au fur et à mesure. Donc, sur cette carte-là, quoi. Donc celle-là, oui, elle m'a pris pas mal de temps. Maintenant, il faut avoir des objectifs pédagogiques qui sont assez modestes aussi. Je sais qu'il y a un prof, notamment en SVT, qui a travaillé, alors c'est en Australie, hein, qui a travaillé sur la notion de neurones. Il a fait des cartes très très simples pour ça. Bientôt, je vais bosser sur la notion d'échelle avec mes élèves et de mesure et de reproduire la reproduction de la réalité en fait dans un monde virtuel. Je vais avoir quelque chose de très très simple en termes de cartes pour leur permettre de construire quoi. Donc là, c'était vraiment parce que je voulais m'approprier en fait l'outil, que j'ai fait quelque chose aussi développé. Et puis la deuxième chose, c'est que avec la version éducative, il y a une communauté internationale qui est assez importante. Alors effectivement, c'est souvent en anglais, mais on va trouver des cartes toutes prêtes pour les langues, l'histoire géo, les sciences. Enfin, il y a beaucoup beaucoup de choses en fait qui existent déjà qu'on peut modifier en fait.
D'accord. Mais les langues, par exemple, j'ai du mal à voir.
En fait,
qu'est-ce qu'il peut avoir comme exemple?
Alors, l'intérêt du jeu, je l'ai vu aussi il n'y a pas très longtemps à Paris, j'étais allé à un colloque avec des enseignants américains, c'est que eux, par contre, c'est pas tellement Minecraft qu'ils utilisent pour ça, c'est OpenSim, je sais pas si vous connaissez. Hein, donc, anciennement, c'était comment ça s'appelait OpenSim, parce que maintenant c'est OpenSim, mais à l'époque c'était Life, ça me reviendra. C'est un univers virtuel en fait dans lequel tu as des personnages. Alors c'est pas cubique comme dans Minecraft, mais tu peux créer des bâtiments virtuels et tout. Il y avait eu un moment donné.
Second Life, c'est pas ça?
Voilà, Second Life, exactement.
Second Life, oui, c'est ça. Ouais.
Voilà, il y avait un grand engouement à une époque. Maintenant, c'est devenu un monde assez vide.
Ben oui.
Mais ceci dit, ça reste comme c'est maintenant, c'est ouvert en fait. Il y a pas mal de boîtes aux États-Unis qui sont accaparées l'outil pour créer des mondes virtuels, notamment par exemple créer une université, des commerces, etc., une ville. Et l'intérêt du jeu, c'est que tu peux aussi communiquer par oral. Donc en fait, ça devient une sorte de jeu de rôle, c'est-à-dire que les étudiants prennent la place de l'enseignant, du boucher charcutier, du coin, peu importe. Ouais. Et on peut utiliser l'outil en fait pour mettre les élèves dans une situation comme un prof pourrait le faire avec des cours de théâtre, tu vois, en anglais. Donc, on pourrait utiliser Minecraft comme ça aussi.
D'accord. Avec les personnages, justement, que tu disais, qui n'étaient pas jouables. D'accord.
La collègue de latin, par exemple, elle va, maintenant qu'elle a bossé sur le forum romain, elle a l'intention de faire un petit film d'animation, là, un machinima, où les dialogues seraient en latin.
D'accord. Ouais, d'accord.
On va revenir là-dessus. Je pense qu'on va enchaîner avec Jean pour que tu présentes un petit peu ton travail. Et puis je pense qu'après, ça serait bien qu'on revienne sur les deux et qu'on échange un peu autour des deux, si ça vous convient. Fais comme ça.
Ouais, très bien.
Et ben, on t'écoute, Jean. À toi, présente-nous ton projet, ton travail.
Ok, alors donc c'était comme j'ai dit tout à l'heure, moi c'est totalement par hasard. Je fais une veille aussi pour un de mes podcasts et je suis tombé sur une news totalement par hasard qui décrivait une sorte de jeu pour de transformer son cours en un jeu. Et ça m'a intrigué, je suis allé voir et ça s'appelle Classcraft. Donc forcément, on vient de parler de Minecraft, donc ça fait forcément écho au monde du jeu. Moi, je suis tombé amoureux de ce dispositif. Donc c'est un enseignant au Canada qui a mis ça au point pour redynamiser sa classe, pour intéresser ses élèves. Et en fait, il s'agit tout bêtement, comme on pourrait très bien le faire avec avec du papier et des crayons, hein, c'est juste que c'est beaucoup plus efficace en numérique, mais c'est tout bêtement un dispositif jeu de rôle et je propose à mes élèves d'incarner un personnage, donc il y a trois classes disponibles, guerrier, mage ou guérisseur, et moi je suis le maître du jeu et c'est moi qui vais organiser un petit peu tout ça. Alors chaque élève va devoir s'associer à d'autres élèves, ils vont devoir faire des groupes de 4 ou 5, c'est ce qui est préconisé. Après on peut faire vraiment ce qu'on veut. Ça c'est le grand truc de Classcraft, c'est qu'il est personnalisable mais vraiment quasiment dans ses moindres recoins, et donc on peut l'adapter à tout ce qu'on veut. Donc on a nos groupes d'élèves de 4 ou 5 élèves et chaque groupe va devoir avoir au moins un mage, un guérisseur et un guerrier, parce que la base du truc c'est l'entraide. Et le mage par exemple, eh bien c'est le seul qui va pouvoir redonner des points d'action, c'est-à-dire ceux qui connaissent les jeux vidéo, des points de mana, c'est la ressource qui va être nécessaire pour utiliser ses compétences. Le guérisseur, eh bien ses coéquipiers vont être un peu mal en point, il va leur redonner des points de vie, et le guerrier c'est lui qui va protéger un peu tout le groupe et mener aussi le groupe à l'assaut pour réussir ses travaux. Alors je vous dis ça, c'est peut-être un petit peu bizarre parce que c'est très abstrait pour l'instant, mais donc il y a 4 caractéristiques dans Classcraft, c'est les points de vie, les points d'action, les points d'expérience et les pièces d'or. Les points de vie, tout bêtement, si quelqu'un fait quelque chose de pas bien, eh bien, il va perdre des points de vie. Alors, je vais partager un petit peu ce que j'ai. Donc là, ce que vous allez voir apparaître à l'écran, c'est le tableau du maître du jeu, et ce que je peux projeter aussi moi pendant le cours. Donc là, j'ai fait un groupe exprès pour nous ce soir, avec un guérisseur, un mage, enfin deux mages et un guerrier. Et donc, on va dire, Stéphane, je suis désolé, mais t'as pas été sage, donc tu as jeté un objet à travers la classe, tu as jeté une gomme, donc je vais cliquer sur Stéphane a jeté un objet, et là, comme on a un guerrier dans le groupe, Jeff, tu peux protéger Stéphane. Alors là, je vais te demander si tu le protèges ou pas.
Donc ça, tu demandes à l'oral et aux élèves, c'est ça ?
Voilà. Donc, je le protège. Jeff, tu le protèges. Donc, tu l'as protégé. Donc, toi, tu vas prendre 8 points de dégâts, mais lui va en prendre moins aussi. Donc, tout le monde est gagnant. Il lui reste 5 points de dégâts. On va le laisser subir le reste de points de dégâts parce que tu n'avais plus assez de points d'action pour le protéger de plus de 10 points de dégâts.
Et qu'est-ce que ça apporte à celui qui protège de protéger, en fait ? Parce qu'il perd des points quand même.
Oui, il perd des points, mais c'est tout dans son intérêt, tu vas voir. Parce qu'on est en équipe et le principe d'entraide, c'est quelque chose qui va être très très fort. Donc on voit que le guerrier peut aider à ce que l'équipe garde la tête hors de l'eau. Pourquoi l'équipe devra garder la tête hors de l'eau ? Parce que si Seb est pas là, mais bon. Seb, il a plus que 10 points de vie et il m'a rendu un devoir incomplet, il perd 20 points de vie. Et là, il va tomber au combat parce qu'il n'avait plus assez de points de vie. Donc, on va le laisser tomber au combat.
Donc, il est nerd-call ?
Alors là, voilà, le livre des lamentations vient de tirer une sanction. D'accord. Pour Seb, et là, il a une heure de colle.
C'est ça, ah oui, trop bien, d'accord.
Voilà, alors, ça, c'est la sanction la pire, je suis désolé pour lui, il a eu la pire sanction qui existe dans ma configuration de jeu. Il y a, dans ma configuration de jeu, une possibilité de tomber sur rien. Donc on peut.
Il faut quand même bien avoir réfléchi tous tes critères, etc.
Voilà, c'est ça. Mais les réglages de base sont déjà quand même pas mal foutus. Et là, on voit que qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, quand quelqu'un tombe au combat, toute l'équipe va perdre 10 points de vie.
Ah oui.
Et c'est ça qui va encourager l'entraide.
Un gros aspect collaboratif, ouais, d'accord.
Voilà. Et bon, alors là, je suis donc tout le monde perd 10 points de vie, je suis obligé. Et enfin voilà. Et ouais. ça crée vraiment, parce que moi je vois dans l'expérience de classe que j'en ai, j'ai déjà quelqu'un qui est tombé au combat. Alors au début ça fait marrer les autres parce que ouais il est tombé au combat et machin, mais quand ils s'aperçoivent qu'ils commencent à perdre des points de vie, du coup ils sont en train de moins rigoler et ils essayent de booster l'autre derrière pour dire non c'est bon arrête parce que là tu vas un peu loin et puis nous derrière parce que voilà, si eux tombent à zéro, ils ont aussi une sanction qui va tomber pour eux.
Et les équipes, tu les as laissées libres ou tu les as...
Alors, j'ai fait le choix de... alors, j'ai fait l'expérimentation sur un niveau 5e et un niveau 3e. J'ai fait le choix de les laisser se mettre comme ils voulaient, de faire leurs équipes vraiment comme ils voulaient. En 5e, ça a été une erreur. En 3e, c'est très bien. Parce qu'en 5e, ils n'ont pas encore l'aspect stratégique de la constitution d'équipe. Alors qu'en 3e, ça marche vraiment tout seul. Ils comprennent le truc très vite et voilà quoi.
D'accord. Alors, tu as parlé du négatif, mais le positif, alors, il y en a bien aussi.
Voilà. Maintenant, le positif. Alors, comme Guillaume, il lui est encore rien arrivé. Guillaume, eh bien, toi, tu vas.
Je peux plus jeter des sorts de code.
Voilà, exactement. Donc, toi, tu as expliqué correctement ton travail à l'ensemble de la classe, et je vais te gratifier de 75 points d'expérience. Voilà, tu viens de gagner 60 D'accord. points d'expérience. Et. Tu viens, j'ai dit des bêtises, je croyais que tu allais gagner un niveau, mais non. Donc, là, tu vois, tu as 3326 points d'expérience. Tous les 1000 points d'expérience, tu vas gagner un niveau. Et quand tu vas gagner un niveau, ce que tu vas pouvoir faire, alors là, je vais passer sur l'écran d'un élève. Hop. Ce que tu vas pouvoir faire, c'est apprendre des sorts. Donc là, j'ai un mage qui est niveau 23, donc c'est la fin de l'année, voilà, elle a tout appris, mais voilà, il y a 9 sorts à disposition, et ces sorts, il y a 6 de ces sorts qui sont totalement personnalisables. Les 3 autres sorts, c'est les sorts collaboratifs, ceux-là, on ne peut pas y toucher, parce que sinon, l'aspect entraide et tout ça disparaîtrait complètement. Et donc j'ai configuré mes sorts de sorte que la téléportation, le mage peut changer de place avec n'importe quelle personne dans la classe pour cette séance seulement, et il va dépenser 5 points d'action pour ça. Ça, c'est les petits sorts. Et il y a des sorts qui sont un peu plus avantageux. Le mage a le droit à une séance supplémentaire pour rendre sa quête de travail, donc son sujet.
C'est marrant ça.
Voilà. Et selon les classes qu'on va choisir, on n'a pas forcément pas les mêmes compétences, alors, et il y a des compétences qui sont que j'ai créées pour être pédagogiquement intéressantes. C'est-à-dire que l'élève va pouvoir demander, par exemple, la correction immédiate de son travail. Comme ça, moi, après, je peux lui redonner et il sait ce qu'il a de bon ou ce qu'il a de faux. Et il aura encore jusqu'à la fin de l'heure pour pouvoir le terminer.
D'accord. Mais alors, ce que j'ai pas compris là, c'est quoi ? L'élève, quand ça se passe, l'élève se met en direct sur son compte ?
Alors,
ça se passe ?
Dans le cas où tu as une classe avec des tablettes et tout ça, chaque élève a un compte. Donc, à la limite, on peut très bien imaginer que son compte, il est là, il est prêt. Ouais. Mais le dispositif a été fait de telle sorte que toi, de ton bureau, tu peux tout gérer. Tu peux tout gérer et
on a perdu Jean.
C'est moi qui l'ai jeté à sort.
Il peut tout gérer, mais pas ça. Pas la connexion.
Bon, en attendant qu'il revienne.
Ah bah c'est
rapide.
Désolé. C'est téléporté rapidement.
C'est un petit que j'ai jeté.
Ouais, tu disais que tu pouvais tout gérer, ouais.
Oui, voilà. Donc je peux tout gérer. Tac. Là. Avec mon écran de maître du jeu. Et si tu affiches ça en permanence, alors tu as une visite.
Voilà. Mais tu mets. Tout à l'heure, tu me dis, il a des points supplémentaires, il a des pouvoirs un peu supplémentaires.
Ah oui. Donc,
comment il décide, lui, à quel moment il décide?
Alors, soit je vais lui dire, là, tu as gagné un niveau, est-ce que tu veux apprendre un sort? Ou, enfin, si D'accord. j'ai le temps, sinon je lui dis un petit peu plus tard. Et je sais qu'il se connecte à la maison, donc il verra qu'il aura gagné un niveau.
D'accord, ok.
Ensuite, il y a les points d'action, c'est la ressource nécessaire pour utiliser toutes ces compétences. Donc, à chaque fois qu'on gagne un niveau, on gagne un point de compétence pour pouvoir apprendre d'autres compétences. Et donc, les points d'action, il n'y a que les mages qui peuvent en donner aux autres personnes de l'équipe. Parce que le mage, c'est le seul à en regagner quotidiennement. Et au bout d'un moment, il a assez de points d'action pour faire un sort qui va en redonner à toute son équipe. Et la dernière petite chose, et c'est la plus anecdotique, mais pour pas mal d'élèves, c'est la plus importante, ce sont les pièces d'or qui vont permettre... alors, les pièces d'or, moi, je les utilise pour les choses qui vont venir d'eux-mêmes, les choses qu'ils vont faire à leur initiative, donc soit rendre service à la classe, nettoyer à fond la classe, aider des camarades, faire un travail supplémentaire, partager un projet qu'ils ont fait, etc. Et ces pièces d'or, elles vont servir à acheter de l'équipement pour avoir des plus belles armures, pour débloquer des familiers, donc des petits animaux de compagnie, qu'on va pouvoir afficher, enfin qu'on va pouvoir entraîner, qui vont nous rapporter d'autres pièces d'or et qu'on va pouvoir afficher avec notre portrait à côté. Et ça, ils en sont fans. Donc du coup, moi, sur le truc des pièces d'or, j'ai mis effectuer un travail supplémentaire de sa propre initiative, c'est par exemple un exposé. Comme ça, j'ai même plus à leur demander de faire un exposé. C'est eux qui me disent est-ce que je peux faire un exposé telle semaine pour gagner des pièces d'or, etc. J'ai même plus à leur demander ça. Donc voilà, en gros, c'est le dispositif. Il y a une dernière chose, une petite cerise sur le gâteau, c'est en début de chaque cours, il y a l'événement du jour. Donc ça, on n'est pas obligé de le faire, hein, mais moi j'aime bien, c'est rigolo. C'est un événement aléatoire qui va pouvoir toucher l'intégralité de la classe, un groupe de la classe, une personne de la classe ou le maître du jeu. Et ça, c'est ça qui les intéresse surtout. Et donc, au début de chaque cours, ils sont là à me demander l'événement du jour. Et aujourd'hui, c'est choisir afin de survivre. La faucheuse en personne vient vous voir et vous oblige à faire un sacrifice. Chaque équipe choisit un joueur qui tombe au combat. Alors ça, c'est cruel. On n'a pas de peau aujourd'hui. Donc après, les mages peuvent... ils ont des pouvoirs pour empêcher les gens de tomber au combat. Moi, j'ai eu un événement du jour. Là, à la rentrée, il y a une classe, je dois leur apporter un paquet de bonbons.
D'accord.
Donc, voilà. Et tu le fais pour toutes tes classes, ça?
Alors, je le fais pour toutes mes cinquièmes et toutes mes troisièmes, sachant que pour l'instant, j'ai qu'une seule classe de troisième parce que je fonctionne un peu... j'ai 2 heures semaine et 2 heures hebdomadaires par semestre. Donc, pour l'instant, j'ai qu'une seule classe et je vais avoir 2 classes de troisième au second semestre et je vais pouvoir faire quelques ajustements par rapport à justement les sorts qui demandent à être ajustés.
Et qu'est-ce que tu... Je sais pas, en fin de trimestre, qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que ça reste uniquement du jeu? Ou est-ce que après tu vas le formaliser, je sais pas, dans des compétences, dans des notes?
Alors, je continue à faire, en fait, je continue à faire mon cours tout à fait normalement. Je continue à évaluer tout à fait normalement, sachant que j'évalue par item. À chaque travail que je donne, j'ai un tableau, savoir faire ci, savoir faire ça, savoir montrer que je sais faire ci, etc. Et à la fin, donc on va dire j'ai 4 items pour une évaluation, et à la fin je peux le mettre sur le comment ils appellent ça, sur le cahier de notes, et ça va rapporter aussi de l'expérience aux élèves, donc ça va aussi les encourager à avoir tout bon, parce que quand ils ont tout bon, j'ai configuré le jeu pour qu'ils gagnent un niveau directement.
Quand ils ont tout bon, ils ont Jacques. J'ai une question. J'ai une question sur l'univers, parce que c'est clairement proche de l'univers, on va, des World of Warcraft, tous ces trucs-là, quoi. Hein, d'ailleurs, on le rappelle.
est-ce que tout le monde adhère? Parce que sans vouloir faire de clichés, ça reste quand même un univers plutôt geek, plutôt fantasy, plutôt... Voilà, moi j'ai en tête mes élèves, mes petites troisièmes qui ont le sac à main posé sur le coude, là, qui ne jurent que par Shy, mais par Danser avec les Stars. Je me demande comment le réel... Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je
À mort. Non, non, mais je me suis posé exactement la même question. Et on va dire déjà, dans les trois quarts des cas, ils savent comment ça marche. Ils connaissent l'univers, etc. Ils y sont pas réfractaires. J'ai eu six élèves qui m'ont dit « Oh non, non, moi ça m'intéresse pas. » Enfin, qui prenaient le dispositif de haut parce que voilà, c'était justement ce monde-là, c'était tout à fait à l'opposé de voilà. Et deux semaines plus tard, j'en ai trois qui viennent me voir. Monsieur, on pourrait s'intégrer au dispositif parce que ça a l'air bien. Et, voilà. Mais j'en ai encore trois qui veulent pas. Et je leur en veux pas, c'est pas une obligation, que c'est quelque chose que je leur propose. Je leur ai dit en début d'année, hein. C'est pas une obligation de participer. S'ils veulent participer, je leur fais signer le pacte des héros, donc qui les engage à aller jusqu'au bout de l'aventure, voilà, pour pas se désister si jamais ils se mettent à avoir une sanction et puis non, je veux plus. Hein. Donc voilà, il y a ce petit côté là et non, j'ai été vraiment très agréablement surpris, même des élèves que je voyais très sérieux, hyper scolaires, qui, et ben, c'est les premiers à aller tous les soirs sur leur compte pour s'occuper de leur petit familier, pour voir s'il n'y a pas des vidéos de cours, parce que je peux mettre des vidéos de cours à glaner, etc.
Donc voilà, tu fais très bien dire ça, moi, c'est ce qui m'intéressait, en fait, parce que je pensais, en fait, que c'était plutôt un dispositif qui allait plutôt style Serious Games, qui allait permettre sur une mission, sur une séquence précise, de faire évoluer les gamins avec des étapes qui leur permettent d'acquérir d'abord peut-être des connaissances descendantes, voilà, utiliser la classe inversée pour derrière réaliser quelque chose.
Ce que va faire Minecraft, Stéphane, ce que fait Minecraft.
Que faisait plutôt Stéphane avec Minecraft. Donc, finalement, tu dis que ce n'est pas impossible avec Classcraft puisqu'ils peuvent gagner de l'expérience en allant lire des contenus, ce genre de choses.
Exactement. Mais, en fait, tu en fais vraiment ce que tu veux et c'est ça que je trouve formidable. Tu peux effectivement dire je vais utiliser Classcraft pour une séquence. Alors bon, une séquence qui va durer un petit peu, mais non, parce que t'es pas obligé d'utiliser tous les outils que t'as à disposition. Vraiment, tu le configures comme tu veux et tu peux faire qu'un niveau, bah, tu l'obtiens, hop, tu lèves la main, tu donnes une bonne réponse, hop, l'élève gagne un niveau. C'est configurable à souhait. Et en ça...
est-ce que toi, en classe, tu arrives à te tenir à noter toutes les interventions ou est-ce que tu le fais à la fin de l'heure? Par exemple, tu fais ton cours et puis à la fin de l'heure, tu mets à jour ton tableau.
Je fais les deux. En classe, je les fais à la volée quand c'est de la réponse orale, quand c'est... T'as l'application sur tablette, donc moi, j'ai toujours mon iPad sous le bras. Et j'ai la liste des élèves, et dès que quelqu'un me répond, pam, bam, ça me prend 2 secondes, et je valide sa réponse, hop, c'est bon, t'as 60 points d'expérience. Voilà. Après, pour tout ce qui est correction, pour tout ce qui est partage de travail supplémentaire, etc., ça, je le fais à tête reposée, je le fais chez moi. Mais eux, ça les motive de faire ça, mais moi, le fait de devoir gérer leur progression, etc., mine de rien, ça me motive aussi et je m'aperçois que là, aujourd'hui, j'ai fait des corrections. J'avais fini mes 4 paquets de copies et je me dis, ah, je pourrais bien en prendre quelques-uns et leur ajouter des pièces d'or parce qu'ils ont fait des efforts qu'ils n'ont pas fait d'habitude. Et j'ai repris mes 4 paquets de copies pour trier ceux qui méritaient d'avoir un petit truc en plus.
Alors ça, c'est vraiment marrant parce que en fait tout l'aspect cet aspect-là, en fait moi je l'ai aussi avec un outil qui s'appelle Class Dojo dont j'ai déjà parlé. Et je le fais à la volée aussi, voilà. Moi j'ai carrément mon smartphone, hein, j'aurais demandé l'autorisation au début d'utiliser mon smartphone en classe pour ça, tout simplement parce que quand on met les bons et les mauvais points, on a un son très spécifique qui fait que vous n'avez pas besoin de vous adresser à l'élève, il comprend très bien s'il a eu un bon point ou un mauvais point, et voilà. En tout cas, dans vos deux présentations, ce qui est intéressant, c'est quand même l'aspect jeu vidéo et, enfin, l'aspect, oui, qui se rapproche de la sphère de l'élève, en tout cas, lié au jeu vidéo. Et est-ce que c'est le seul avantage que vous en tirez? Qu'est-ce qui a vraiment changé? La motivation? Ça, c'est une question aux deux, hein. Peut-être, je sais pas, Stéphane.
Moi, en fait, c'est la puissance de l'outil, elle s'est exprimée par rapport à l'aspect collaboration entre élèves, en fait. C'est là que ça s'est vraiment exprimé. C'est-à-dire que par rapport à un cours normal, la classe se met, comment dire, s'organise vachement plus facilement. Ils ont la possibilité, en fait, de distribuer des rôles dans le jeu. Donc, notamment, là, bientôt, je vais bosser sur le Moyen-Âge. Donc on va repartir. Alors c'est marrant parce qu'il y a des liens avec Classcraft, mais en fait j'utilise pas Classcraft, mais il y a des choses comme ça, c'est-à-dire que j'essaie d'instaurer un peu des sortes de jeux de rôle en fait dans la classe. Donc par rapport au Moyen Âge, je repars des métiers du Moyen Âge, c'est-à-dire le carrier, c'est-à-dire le tailleur de pierre, etc., le maître d'œuvre. Et donc l'intérêt en fait du jeu vidéo, c'est que les élèves vont travailler entre eux, vont faire appel aux experts en fait, qu'ils vont découvrir déjà au sein des élèves sans faire appel au prof. C'est l'intérêt du jeu, il est là. C'est-à-dire que dans la posture de l'enseignant dans la classe, moi, j'y vois l'intérêt de mettre les élèves en mouvement dans une dynamique de projet qui fonctionne toute seule et que finalement, des élèves qui ont des connaissances du jeu, ça peut être ça, ou des connaissances dans d'autres domaines, ça peut être par rapport aux maths, par exemple. Parce que moi, souvent, en fait, on a du travail... comment dire, autour des échelles de calcul de superficie, de choses comme ça, où des élèves vont être plus à l'aise que d'autres, la règle de 3, ils s'en servent tout le temps, eh bien, ils vont faire appel, en fait, aux uns ou aux autres en fonction de leur expertise. Et c'est ça, en fait, que je trouve comme intéressant. C'est-à-dire que finalement, il n'y a pas besoin d'entraîner la classe, d'insister lourdement pour que ça se mette en mouvement, en fait, ça part tout seul. Par contre, ça demande à ce que ce soit bien balisé à l'avance. Mais une fois que la séance est lancée, en fait, ça se passe tout seul.
Ça vous demande quand même beaucoup de boulot, tous les deux, en amont, tout ça. Enfin, je veux dire, plus de boulot, non?
Si tu veux, c'est un peu comme avec l'arrivée de nouveaux programmes. C'est-à-dire qu'au départ, forcément, tu passes du temps. Parce que c'est nouveau. Moi, ça fait qu'un an que j'y suis. Mais déjà, cette année, en fait, je suis plus efficace dans ce que je prépare. Et puis, il y a des choses sur lesquelles... voilà, je vais peaufiner, je vais améliorer, comme je le disais tout à l'heure, mais ça existe déjà. Donc effectivement, au départ, il y a un investissement. Mais franchement, en termes de relation à l'élève et puis de fluidité en fait du cours, mais il y a vraiment, enfin c'est le jour et la nuit quoi. C'est-à-dire que les élèves, ça se passe d'une manière super agréable dans la bonne humeur, dans la détente. Et par rapport à une gestion de cours, moi je m'y retrouve carrément quoi.
Ouais, le même constat pour la gestion de cours. La gestion de cours, c'est du coup quand t'as bien préparé ton truc, mais ça glisse tout seul et limite tu rentres, tu fais l'appel et là ils te disent bon alors on va faire ci, on va faire ça, on fait ci comme ça, et puis là machin, très bien, vas-y. Mais c'est vrai que alors moi dans le dispositif Classcraft, ce qui demande beaucoup, vraiment beaucoup de temps, c'est toute le réglage au début. Quand le dispositif n'est pas encore lancé, il faut que tu penses, que tu essayes de vraiment penser à tout et pour que ce soit avantageux et pour toi et pour tes élèves, pour que ce soit pédagogiquement correct. Mais une fois que c'est fait, ça roule.
Après, tu peux toujours revenir dessus aussi.
Oui, je reviens dessus quand je veux et limite ça me fait gagner du temps. Limite ça me fait gagner du temps parce que ça m'oblige à être plus organisé parce que je suis un peu bordélique à la base. Mais limite vraiment je suis plus organisé, je sais que là je dois faire les choses maintenant, certaines choses je les fais plus tard et je répertorie tout ce qui se passe, mais vraiment tout dans le dispositif et ça roule quoi, ça glisse tout seul.
Question qui taquine un peu, tous ces Minecraft et Classcraft, ce sont des outils qui sont hébergés. Alors non, Minecraft, tu disais que tu peux l'installer en serveur local, c'est ça hein?
Ouais, tout à fait. Ouais.
Et Classcraft, par contre, c'est hébergé, j'imagine, sur des serveurs qui ne sont pas basés en Europe, spécialement encore moins en France.
Voilà. En plus, il y a une version gratuite et une version payante. Alors moi, j'utilise la version payante.
Bon, je te dis ça parce que moi j'ai utilisé Classe Dojo et j'ai quand même des parents qui aujourd'hui ont souhaité que je retire leur enfant du site parce que les données personnelles, alors en fait on parlait juste du nom et du prénom de l'enfant, attention, hein, y a rien d'autre. donc bon, après il n'y a pas de souci, moi j'écoute, je comprends, hein, mais des parents qui étaient déjà bien renseignés sur là-dessus et qui souhaitaient pas que. Bon, voilà. Donc moi je me positionne toujours aussi dans ma casquette de formateur là et de représentant de l'éducation nationale et tout ça, mais bon. Mon avis perso, c'est qu'on se prend la tête souvent pour pas grand chose.
Et Classcraft, la version gratuite, quelle différence?
Alors, la version gratuite, c'est juste que t'as pas les histoires cosmétiques avec les pièces d'or, les familiers et les armures.
D'accord.
Alors en 2011, sur un colloque cyberbank, j'en parle souvent, mais j'en reparle encore, on avait invité un monsieur qui s'appelle Romain Janvier, qui est prof de maths pas très loin de chez moi en Ardèche là, et qui est un gros gamer aussi, et qui a aussi un podcast, je crois. Enfin bref, et il a fait une conférence sur le jeu vidéo et c'était marrant parce qu'il expliquait en gros que les jeux vidéo étaient souvent construits aujourd'hui comme on construit un cours, avec le tutoriel qui était finalement la phase d'apprentissage, après les premiers niveaux qui correspondaient plutôt à des phases d'entraînement où on répétait ce qu'on avait vu en tutoriel avant d'arriver au boss qui était entre guillemets l'évaluation. Enfin, je schématise un peu, mais il y avait vraiment un truc qui était plutôt intéressant. Et en 2011, il n'y avait pas autant, en fait, c'est fou, hein, il y a même pas 4 ans, on parlait encore pas autant de serious game, de jeux vidéo, tout ça, et j'ai l'impression que ça devient quand même très présent maintenant. Alors pour vous, est-ce que c'est une mode qui va repartir aussi vite qu'elle est venue, ou est-ce qu'il y a vraiment un futur dans le jeu vidéo, dans l'éducation? Et je parle bien de jeux vidéo, je parle pas de tease, de numérique, hein.
Je commence, ouais.
Ouais, vas-y.
En fait, moi, ça me gêne toujours quand on parle des jeux vidéo en général, en fait, parce que je pense que il y a des choses vraiment très différentes, et du coup, les approches sont pas les mêmes, quoi. Et c'est un piège. Enfin, par exemple, dans la façon de l'aborder avec des collègues, si on dit les jeux vidéo arrivent au collège, je pense que ça peut gêner pas mal de monde, et en plus, je pense que c'est pas juste, parce que il y a vraiment de tout. Il y a des jeux vidéo qui sont de très bonne qualité, et qui, simplement pour le fun, mais qui n'ont pas du tout leur place en classe, et d'autres au contraire qui sont intéressants, et c'est pas forcément les plus récents, hein, d'ailleurs. Bon, Minecraft, si on parle du jeu en lui-même, je sais que des personnes de ma génération, quand ils regardent Minecraft, voilà, c'est des cubes, a priori, tu vois, ça, c'est pas un truc très kiffant, quoi. Enfin, et puis à côté de ça, il y a des jeux qui sont un peu plus anciens, qui s'appellent Stronghold, je sais pas si vous connaissez ce jeu-là, c'est un jeu de construction au Moyen-Âge qui est très 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 bien pour aborder le Moyen-Âge et l'architecture. Il date de 2003, il n'est pas super beau, mais il est sympa. Et puis, il y a des jeux qui sont récents, comme par exemple Assassin's Creed. Il y a eu pas mal de polémiques là dernièrement autour de ce jeu, et qui, notamment vis-à-vis de sa position, enfin de sa thèse, de sa thèse historique, bah, franchement, le mettre entre les mains d'élèves en classe n'a pas forcément d'intérêt. D'ailleurs, il y a des enseignants d'histoire qui sont assez branchés aux jeux vidéo, qui ont des blogs. Là, je ne sais pas si vous voyez Romain Vincent. Il a une chaîne qui s'appelle Jeux vidéo et histoire. Clairement, lui, il va faire de la critique du média, mais il va pas utiliser le jeu en classe. Donc, il y a des jeux qui ont leur place en classe, qui la trouveront, je pense, relativement naturellement, parce qu'on peut en faire à peu près ce qu'on veut, puis d'autres pas du tout. Minecraft, maintenant, ça reste. Enfin, là, moi, ce qui me pose question, c'est le décalage qu'il peut y avoir entre les pratiques pédagogiques qu'on va avoir ici et à l'étranger, quoi. C'est là, enfin, quand tu rencontres des collègues à l'étranger, c'est là que tu vois le décalage qui peut être assez important. Et notamment le fait que Minecraft est utilisé depuis déjà 3-4 ans à l'étranger, que maintenant, alors, il y a l'Académie de Versailles qui a créé un site qui s'appelle Stoneblocks. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça.
Non.
Donc, c'est la DAN de Versailles. Ils ont créé en fait un site qui s'appelle Stoneblocks pour recenser en fait des exemples de cours sous Minecraft. Pour commencer à réunir en fait des exemples de fiches pédagogiques, ils auront leur stand d'ailleurs à Educatech Educatis prochainement. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour si vous voulez voir un peu à quoi ressemble Minecraft. Je suis en contact avec eux, on a bossé un petit peu ensemble. Et puis alors, si on parle finance, t'as Microsoft qui a senti quand même le vent porteur de Minecraft, puisqu'ils ont annoncé la création d'un site qui s'appelle Minecraft dans l'éducation, qui a pour objectif d'être la plateforme mondiale en fait d'hébergement de cours sous Minecraft. Donc il y a quand même un mouvement, sachant qu'en France on n'est pas à l'avant-garde par rapport à ça. C'est il y a dans la posture pédagogique, je pense qu'il y a un souci, quoi. Donc on pourra en parler avec un autre jeu. Moi, il y a un jeu que je trouve génial qui s'appelle Kerbal Space Program, qui est un jeu de simulation spatiale. On voit clairement la différence qu'il va y avoir entre une façon d'enseigner en France et dans les pays nordiques. C'est un jeu de simulation spatiale où tu crées ta fusée, où tu dois réussir à la mettre en orbite et éventuellement l'envoyer par exemple sur la Lune, mais vraiment avec une simulation, sur le plan des théorèmes de sciences physiques qui sont précis, quoi. vraiment bien, scientifiquement, c'est reconnu. Et ben, dans les pays nordiques, ils vont mettre ça entre les mains de gamins de primaire, si tu veux. Parce que pour eux, c'est pas du tout un souci qu'on procède par SRR et qu'on comprenne pas exactement ce qu'on fait. Ça viendra après, c'est pas grave. Je sais que l'essai a été fait en France et si tu veux, la réaction d'enseignants de lycée ou universitaire est de dire ouais attends, il faut d'abord se bouffer la théorie, puis après, donc ça c'est pas avant le niveau université, parce que sinon on n'a pas la théorie physique qui permet d'utiliser ce jeu, quoi. Donc tu vois, c'est l'accepter l'idée qu'on puisse s'amuser et qu'on va pas forcément comprendre tout ce qui se passe, mais que par infusion, on va commencer à accumuler en fait des compétences et des connaissances. Et ce qui fait que, à mon avis, ça peut freiner aussi l'arrivée du jeu vidéo, enfin de certains jeux vidéo, en classe.
D'accord. Juste pour ajouter, alors moi c'est assez personnel, c'est sur le thème Serious Games. Ce thème pour moi il devrait pas exister, parce que c'est comme si je te disais un joyeux ennui.
Exactement.
Voilà, ça reste un jeu. Et donc, comme moi, je peux utiliser Classcraft, qui pour moi n'est pas un jeu, qui est un dispositif. Alors moi, j'aime bien l'appeler un dispositif démago-pédago-éducatif. Mais je suis réaliste aussi. Donc, il y a ça, mais je peux aussi, dans le cadre de l'histoire des arts, je l'ai fait l'an dernier, proposer un jeu vidéo comme Papers, Please, qui est une critique des politiques totalitaires. Et enfin, j'utilise un jeu, appelons un jeu un jeu, et n'ayons pas peur d'introduire le jeu dans l'éducation. On le fait déjà en langue. Je pense que ça se fait beaucoup. J'ai déjà entendu plusieurs collègues qui font des jeux papier, des petits jeux de rôle, des petites scénettes. Ils prennent un personnage, ils y se mettent dans le personnage, etc. Mais voilà, ça se fait depuis hyper longtemps. C'est pas parce que c'est du jeu vidéo que du coup ça devient attention, voilà. Voilà, c'est ce qui me fait tiquer à chaque fois un petit peu.
Mais tout à fait, mais je crois que c'est comme tout. De toute façon, le problème, c'est que aujourd'hui, le numérique est tellement entré, on en parle tellement, alors qu'il y a encore 5 ou 6 ans de ça, les gens en parlaient beaucoup moins. Je crois qu'il y a aussi, du coup, le revers de la médaille qui est les collègues qui ont envie un peu de s'y mettre, mais des fois ils disent oulala, mais pourquoi on fait que ça, on pense qu'à ça, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire des choses sans, etc., etc. Donc moi, je suis tout à fait d'accord à ce que tu viens de dire, il faut arriver tout simplement à peser le pour et le contre et se dire est-ce que là c'est vraiment utile, est-ce que là ça a un apport ou pas, ouais. En fait,
on fait pas ça tout le temps, quoi. Ouais.
On fait pas ça tout le temps. On parle d'un podcast, on parle de ça dans ce podcast, donc forcément on parle de ça, mais c'est pas la réalité de nos cours tous les jours. Moi, c'est ce que tu viens à répéter en formation, quoi.
Tout à fait.
Voilà, ok.
Super, en tout cas, ça donne envie d'essayer tout ça.
Ouais, on n'a même pas assez de temps, on a largement dépassé notre quota habituel, mais on s'en fout de toute façon.
Pareil, hein, moi je pourrais t'en parler pendant une quarantaine de minutes.
Exactement, mais je crois que ça sera intéressant. Je le dis souvent, mais qu'on réinvite un peu les intervenants et pour continuer à échanger ou sur l'évolution, même dans quelques temps, savoir si justement ça continue, si ça prend pas, tout ça, quoi. Pour vous retrouver, messieurs.
Ouais, pour en savoir plus sur vous.
Comment on peut vous joindre ?
Stéphane.
Sur Twitter, j'ai un compte que j'alimente régulièrement. Alors, je ne sais pas si vous pouvez le faire apparaître ou une manière ou une autre.
Donne-le déjà.
C'est Stéphane Cloâtre, donc S majuscule et Stéphane, et puis C majuscule, et c'est Loatre, donc Stéphane Cloâtre. Et puis, j'ai un blog aussi, stéphanecloâtre.fr, sur lequel j'essaye de faire des articles. Qui prennent un peu de recul en fait par rapport à tout ça, puis j'essaie de me baser sur la recherche qui est plutôt anglo-saxonne pour l'instant sur le sujet, quoi.
C'est là que je t'ai découvert, en tout cas. C'est des petites
vidéos, d'accord.
En fait, voilà.
Ok,
super, merci Stéphane. Je viens de t'ajouter à l'instant, tu as un nouveau follower, je suis super heureux. Jean.
Alors moi, j'ai plein partout. Donc moi, je m'occupe d'un podcast qui s'appelle Papa à quoi tu joues, où on traite de jeux vidéo, parfois de jeux plateau. On essaye de conseiller des jeux qui valent le coup, parce que voilà, quand on est parent, vous le savez bien messieurs, quand on est parent, on n'a pas forcément de temps, beaucoup de temps à consacrer à ça, et il y a plein de gens qui ont décroché le jeu vidéo à grand regret. Et donc, j'essaye d'être là pour les raccrocher un petit peu. Donc, sur papaaquoitujoues.fr, on peut me retrouver sur Parents Numériques, qui est un autre podcast pour aider les gens qui sont un peu paumés dans le monde numérique dans lequel on vit. Et donc, c'est un tout nouveau podcast qui, là, pour l'instant, on n'est qu'au premier numéro, et donc pour aider les gens. Donc, si jamais vous connaissez des gens en galère, bah, c'est peut-être aussi un bon plan. Et sinon, sur Twitter, donc sur soit le compte Papa à quoi tu joues, soit le compte Parents Numériques, soit bah, Jean-Noël FR. Voilà, mais c'est principalement sur Papa à quoi tu joues que je suis le plus actif. Papa à quoi tu joues sur Twitter, c'est sans S parce qu'il n'y a pas assez de caractères pour mettre le S. C'est pas une faute.
Très actif. Hein. On tape ton prénom, on te trouve facilement, je crois. Déjà.
Ah bon, bon alors, ça va.
Cool. Eh ben écoute, je crois qu'on arrive à la fin de l'émission, Jeff, c'est ça, hein?
Ouais, on arrive à la fin. Comme d'habitude, en tout cas, l'émission sera, on pourra la réécouter dans un ou deux jours, on mettra en podcast. En tout cas, si vous voulez ne louper aucun épisode, il y a toujours, on peut toujours s'abonner de plusieurs façons en rentrant son petit mail sur itchers.fr. Vous pouvez rentrer votre mail et vous recevez directement l'émission. Sinon, il y a toujours les réseaux sociaux, nos Facebook, notre communauté Google+, et iTunes, ce que j'oublie souvent. Des petits commentaires, ce serait aussi sympa. Et moi, si vous voulez me rejoindre, si vous voulez, c'est sur Twitter @jeff8342.
Et moi sur Twitter, c'est toujours aussi pénible, c'est @willo _teach TEACH. Voilà, willo teach.
Voilà, on essaiera de se retrouver en tout cas dans 15 jours. En tout cas, je vous remercie Stéphane et Jean d'avoir accepté
l'invitation. Merci pour votre accueil. Plaisir.
Merci à vous deux, on donnera des nouvelles, n'hésitez pas à faire circuler vos infos aussi, puisque peut-être qu'un jour on parlera de tous ces invités qu'on a eus, on devrait faire une grande synthèse, et donner des nouvelles. Voilà, merci à tous.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Ciao.